Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. On va vous donner dans le journal les toutes dernières informations sur ce feu très impressionnant qui continue de progresser ce matin dans le Var. Les flammes ont parcouru plus de 2500 hectares depuis hier après-midi. C'est énorme, c'est le secteur de Cotignac qui brûle et les Canadiens reprennent leur rotation là, au moment où on se parle. Vous aurez aussi les toutes dernières informations dans l'affaire Jubilard, en direct de Toulouse. Cédric Jubilard, qui dit avoir étranglé sa femme il y a près de 6 ans. Et sur la démission attendue dans la matinée de la ministre de la Transition écologique après l'adoption définitive de la loi d'urgence agricole.
C'est la région du Haut-Var qui est en proie aux flammes depuis hier après-midi.
Avec ce violent incendie qui a pris sur la commune de Pontevès avant de se propager à grande vitesse, insiste la préfecture, aux communes voisines de Cotignac, Corins, Montfort-sur-Argent aussi. Le dernier bilan des pompiers fait état ce matin de 2500 hectares parcourus au moins par les flammes. Anna Jojard, vous êtes sur place dans le secteur ce matin pour RMC. Quelles sont les toutes dernières informations?
Eh bien, la nuit a été très compliquée. Jusqu'à 1200 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour ce feu qui a progressé très vite depuis hier après-midi. Il a parcouru plus de 800 hectares dans la nuit. Ce matin, le feu est contenu, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus beaucoup, mais il n'est toujours pas fixé. Le travail des pompiers va donc être très important aujourd'hui. C'est ce qu'explique le commandant des pompiers du Var, Éric Groin.
Le travail d'aujourd'hui va être crucial parce que, je vous le rappelle, demain, nous avons du vent. On en aura cet après-midi, mais demain, il est beaucoup plus fort. Je ne souhaite pas avoir plusieurs feux en attente dans le département, si on a encore d'autres risques ailleurs. Donc il faut absolument qu'on travaille beaucoup sur ce feu-là pour qu'on puisse être tous disponibles pour, je l'espère, une journée calme, mais rien ne le présage.
Les moyens aériens sont en train de reprendre. J'ai vu passer un hélicoptère plusieurs fois. Il y aura aussi 2 Canadair et 2 avions d'âge qui seront déployés pour lutter contre l'incendie qui est désormais près de Cotignac.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle d'un feu qui a progressé à vue d'œil durant la nuit. On parlait de quelques hectares brûlés hier après-midi au moment où on l'a appris. Et on est donc ce matin à plus de 2500 hectares parcourus par les flammes. Parmi les 400 personnes qui ont été évacuées dans le secteur depuis hier après-midi, je vous propose d'écouter Rudy, c'est un touriste belge qui avait loué une maison à Montfort-sur-Argent.
On a dû quitter au plus vite parce que on avait les retombées des cendres, on avait des braises et la fumée qui devenait de plus en plus chaude. Donc c'était très très vite en fait. Franchement, on sentait vraiment la chaleur. Les fumées devenaient vraiment chaudes, quoi. Donc ça a pris vraiment une proportion très rapide, quoi. Ça a vraiment été très 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 vite. La gendarmerie, la police municipale, tout le monde est arrivé pour demander de quitter au plus vite parce que ça devenait vraiment incontrôlable, quoi.
Voilà, les pompiers mobilisés donc dans le Var et endeuillés. En Gironde, cette fois, à nouveau, 2 sapeurs professionnels qui sont morts hier après-midi en intervenant sur un incendie près de l'aéroport de Mérignac. En fait, leur camion-citerne a été encerclé par des flammes allant jusqu'à 30 mètres de haut. C'est ce qu'explique le directeur des pompiers dans ce département de Gironde.
Ouais, les pompiers qui payent un lourd tribut cet été. On y reviendra après le journal avec Éric Brocardi, le porte-parole des sapeurs-pompiers de France. D'abord, l'affaire Jubilard à 8h04, parce qu'il y a du nouveau.
Oui, depuis qu'on sait ce qu'a dit Cédric Jubilard à la justice lors d'une audition, c'était la semaine dernière, dans la foulée de ses aveux sur la disparition de son épouse il y a près de 6 ans dans le Tarn. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct ce matin de la cour d'appel de Toulouse où Cédric Jubilard a donc dit comment il avait tué son épouse.
Oui, c'est ça, Quentin. Exactement, Cédric Jubilard raconte à la magistrate ici à Toulouse que c'est une nouvelle dispute, énième dispute sur fond de divorce. Le ton monte très rapidement, explique Cédric Jubilard. Delphine lui dit, tu n'es qu'un toxico de merde, j'ai trouvé un homme qui vaut beaucoup mieux que toi. Cédric Jubilard explique qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ça l'a fait complètement vriller, ça l'a fait dégoupiller. J'ai serré son cou très fort, j'ai serré et j'ai crié, tais-toi, 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 je l'ai dit 20, 30, 50 fois. Et puis ensuite, eh bien, je l'ai prise sur mon épaule, je l'ai mise dans le coffre de la voiture et je suis allé l'enterrer à proximité de ce champ. Je me souvenais notamment de ce monticule de compost. Voilà pour la version officielle livrée ici même à Toulouse par Cédric Jubilard devant la magistrate. Bien sûr, une seule question d'actualité qui brûle sur toutes les lèvres. Y a-t-il eu préméditation? A-t-il prémédité son geste? Les magistrats ont quelques mois pour réfléchir et répondre à cette question puisque le procès en appel a été reporté au premier semestre 2027.
Jean-Wilfried Forquès en direct de Toulouse ce matin pour RMC. C'est une atteinte grave à la République. Voilà ce que dit le ministre de la Justice Gérald Darmanin à propos des menaces qui pèsent sur le maire d'Alès dans le Gard. On en parle ce matin sur RMC. Pourquoi ? Parce qu'il a été exfiltré de chez lui par le RAID. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Car sous la menace des narcotrafiquants de la DZ Mafia, le nouveau parquet national anticriminalité organisé s'est saisi de l'enquête. Et alors dans ce contexte, le Premier ministre Sébastien Lecornu dresse ce matin dans le magazine Paris Match un tout premier bilan des tests anti-drogue qu'il avait promis le mois dernier pour les ministres et les hauts fonctionnaires. Il annonce que certains membres de cabinet ministériel ont été écartés après des tests qui se sont révélés être positifs. Il ne dit pas combien ni combien de ministres d'ailleurs ont été dépistés, mais il promet que ces tests vont continuer.
Et ce matin, c'est la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, qui va claquer la porte.
Dans la foulée de l'adoption définitive hier avec l'ultime vote au Sénat du fameux projet de loi d'urgence agricole qui réintroduit deux pesticides interdits jusque-là. Monique Barbu y était opposée. Et c'est donc pour ça qu'elle a prévu de présenter sa démission avant le Conseil des ministres qui aura lieu dans la matinée. Lucas Laubert avec Romain Cluzel, vous en savez un petit peu plus sur ce choix de la ministre.
Sa décision est mûrement réfléchie. L'autorisation de l'acétamipride, même sous condition, était une ligne rouge. Alors face à son entourage hier soir, Monique Barbu tranche « Je n'ai pas d'autre option que de remettre ma démission ». C'est ce qu'elle va faire ce matin à l'Élysée. Pourtant, elle n'exclut pas totalement que le président réussisse à la convaincre de rester en poste. « Si ma démission est refusée, ça dépend de ce qui est dit et comment c'est dit », explique-t-elle. Quoi qu'il en soit, cette annonce est un très mauvais signal, estime une députée macroniste proche de Monique Barbu. Un gâchis, selon elle, qui désespère de voir la 8e ministre de l'écologie faire ses valises depuis 2017. Ce départ probable n'est pas une surprise, estiment plusieurs membres du Bloc central. Pour eux, Monique Barbu paye son manque politique au sein du gouvernement. Interrogé par Paris Match aujourd'hui, le Premier ministre Sébastien Lecornu assure que Monique Barbu a sa confiance, mais il estime que les membres du gouvernement doivent trouver le point d'équilibre entre les convictions personnelles qu'ils portent et les compromis qu'ils doivent trouver.
Et alors dans la dernière ligne droite, avant les vacances politiques, députés et sénateurs ont définitivement validé 6 textes. Hier, certains emblématiques, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé là ces derniers mois sur RMC, comme celui sur le sport professionnel, encadrant la répartition des droits TV notamment, celui sur la sécurité du quotidien, c'est la fameuse loi Riposte qui durcit les sanctions en cas de rodéo urbain ou de free party, ou celui sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui seront donc interdits aux moins de 15 ans à partir du mois de septembre. C'est une première en Europe, chez nous, donc en France. Bérangère Bocquillon, ça mérite quand même de s'y pencher un instant avec vous, chef du service société RMC. Qu'est-ce qui va changer donc sur les réseaux en septembre ?
Si vous vous inscrivez pour la première fois sur un réseau social, vous allez devoir prouver que vous avez plus de 15 ans. Pour ça, le réseau social vous proposera de passer par un tiers de confiance qui pourra par exemple être France Connect. Mais si vous êtes déjà inscrit, le réseau social aura jusqu'au 1er janvier pour vérifier votre âge et supprimera votre compte si vous avez moins de 15 ans. Le système est prêt et c'est très sécurisé, assure-t-on au ministère du Numérique. Les plateformes ne seront ni votre âge ni votre nom. Elles sauront simplement que vous avez plus ou moins de 15 ans.
Alors ce sont tous les réseaux qui sont concernés, TikTok, Snapchat notamment. Bérangère, qu'est-ce qui se passera si le système est contourné ?
Si ce sont des moins de 15 ans qui trichent, pas de sanctions prévues, ça existera forcément, déplore-t-on au ministère du Numérique. Des mineurs réussissent bien à s'acheter de l'alcool malgré l'interdiction. Mais si ce sont les réseaux sociaux qui ne respectent pas leurs obligations, la Commission européenne pourra les sanctionner par de fortes amendes, jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires.
Et alors sur le Tour de France, on assiste à une bataille passionnante pour le podium entre deux jeunes de 19 et 22 ans. Ça semble jouer pour les deux première place, le maillot jaune Tadej Pogacar qui a l'air intouchable, le belge Remco Evenepoel qui a conforté sa deuxième place en remportant hier le contre-la-montre au bord du lac Léman. Et donc derrière, on a cette bataille entre notre Français Paul Sexas qui a repris un petit peu de temps hier au Mexicain Isaac Del Toro. Romain Asselin.
Oui, Paul Sexas n'est plus qu'à 20 secondes du podium après sa solide quatrième place sur le contre-la-montre.
Je me suis battu toute la journée et chaque jour nous rapproche un peu plus de Paris, donc 5 étapes et 5 jours pour se battre. Donc je suis prêt plus que jamais à me battre.
Un très bon signal pour son directeur sportif, Julien Jourdi.
Ces débuts de troisième semaine commencent parfaitement bien pour Paul, c'est ce qu'on avait imaginé. On sait que les difficultés vont monter crescendo jusqu'à samedi. L'étape honnêtement, samedi elle est monstrueuse, donc tout peut se passer. Il y a vraiment une très belle bataille à livrer.
Face à un Isaac Del Toro qui ne désarme pas, le Mexicain a terminé terminé cinquième du chrono.
On essaie toujours d'être dans la position de celui qui reprend du temps aux autres, mais en me refaisant le film du chrono, je peux être satisfait de ma performance.
Dans son équipe UAE, il n'y a pas que le maillot jaune de Pogacar qui compte. Le directeur sportif Machin Fernandez suit de très près cette lutte pour le podium et le maillot blanc entre Del Toro et Sexas.
C'est incroyable que ces deux jeunes se battent pour le podium. Incroyable niveau, incroyable coureur, incroyable attitude, incroyable caractère. Bravo à eux, ils ont l'esprit de la gagne.
Isaac Del Toro a déjà remporté une étape sur ce tour. Paul Sexas devra peut-être limiter pour le dépasser au classement.
Cette 17e étape aujourd'hui qui fera 174 km entre Chambéry et Voiron en passant par les massifs des Bauges et de la Chartreuse, qui repartira d'ailleurs cette étape sans l'Allemand Florian Lipowitz, victime d'une chute hier sur le contre-la-montre. Ça fait deux abandons en deux étapes sur des chutes dans des virages.
Étape du jour à suivre évidemment sur RMC, l'intégral tour tout l'après-midi sur RMC.